Bonjour à tous. Ces chants étaient beaux, pas vrai? Quelques-uns disent oui, les autres, je ne sais pas. Je peux vous passer un mouchoir si vous voulez pleurer, hein? Parce que notre joie est dans le Seigneur. Et dans toutes les circonstances, Hélène a prié tout à l'heure dans la réunion de prière pour toutes les personnes auxquelles on a pu rendre témoignage depuis notre retour de voyage. Et c'est assez fantastique parce que chaque personne m'a demandé dans l'immeuble, à chaque personne que j'ai rencontrée, vous avez perdu quoi? Et encore, et encore, et encore, et encore. J'ai dit, mais il y a une chose que je n'ai pas perdue. Ah bon? Tu as gardé quelque chose? Oui, j'ai dit, quelque chose que les voleurs n'ont pas pris. Ah bon, c'était quoi? Tu l'as vu dans la poche? J'ai dit, vous ne devinerez jamais. Non, dis-nous ce que c'était. J'ai dit, la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'était formidable parce que ça donne l'occasion de partager avec les uns et les autres. Je suis tellement content de voir ce verset en vue pour qu'on se le rappelle. Vous l'avez appris par cœur avec le verset précédent, ça c'est le verset 11 si je ne me trompe. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant selon ta parole? Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et les autres versets, je vais vous en donner deux autres ce matin, parce que vous avez une heure de plus au lit, alors vous êtes bien en bonne forme et prêt à apprendre des versets par cœur. La dernière fois, donc, nous avons parlé de ce thème de la méditation de la parole, tellement importante de méditer la parole, parce qu'au moment difficile, un verset vient vraiment dans notre souvenir et nous encourage. Alors j'aimerais vous demander de repasser dans vos cœurs ce qu'on a partagé la dernière fois au sujet de la méditation, tellement, tellement important. Et le dernier mot dans tout cela, c'est la parole. Alors j'aimerais ce matin, avec le secours du Seigneur, m'entretenir avec vous en parlant de l'importance de la parole dans la vie du serviteur. Je ne sais pas si vous êtes serviteur ou pas, hein. Dans le temps, les pasteurs pentecôtistes ne voulaient pas le titre de pasteur. Ils font qu'ils sont un grand tampon derrière leurs enveloppes, serviteurs de Dieu. Et moi, j'aimais bien leur dire, mais les autres gens dans votre église, qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont? On est tous serviteurs de Dieu si on connaît le Seigneur. Et c'est dans cet aspect, cette perspective que j'aimerais qu'on passe un petit moment ensemble ce matin. La parole de Dieu dans la vie de celui qui est au service du Seigneur, dans ta vie à toi, si tu connais le Seigneur, dans ta vie à toi, quand tu auras l'occasion de témoigner. Je sais, dans la vie de notre cher Philippe, quand il a rendu témoignage au moment du départ de sa maman, la parole de Dieu qui revient, qui nous encourage, qui nous fortifie, et c'est tellement, tellement important. Alors, j'aimerais lire avec vous, si vous êtes d'accord, un petit passage, je crois que ça doit être cité, sur la parole, sur le... Non, ça vient, tout doucement. Hein? Ah, ça y est, c'est bien. Voilà le thème et aussi le verset que j'aimerais lire avec vous. Le disciple reçoit ses ordres de marche. Seigneur, ton serviteur, écoute. Et j'aimerais qu'on lise ensemble ce passage que nous connaissons tellement bien, dans 1 Samuel 3. Si vous le connaissez si bien, moi je le connais si bien, le Seigneur ne peut plus nous parler par ce passage, c'est vrai? Ah, je suis encouragé par plusieurs visages qui disent non. Le Seigneur peut toujours nous parler par un passage et j'aimerais le lire parce que je n'avais pas du tout l'intention de méditer ce passage quand je me suis préparé. Hier, j'ai dit, Seigneur, je ne sens pas que ce soit tout à fait ça que tu me donnes. Et le Seigneur a tout remodelé. Mon frère Philippe a eu beaucoup, beaucoup de patience. Il a attendu presque jusqu'à minuit pour que je lui envoie les notes. Si vous voulez bien, on lit ensemble 1 Samuel chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Intéressant ça. Il servait le Seigneur auprès d'Élie, auprès d'un frère plus âgé, quelqu'un qui pouvait l'encourager dans le chemin du Seigneur. Et c'est la tâche de nous qui sommes plus âgés que les autres, d'avoir d'autres qui nous suivent, qui sont avec nous et de les encourager dans le travail du Seigneur. Mais la phrase qui suit est terriblement triste. Et c'est une phrase que j'aimerais souligner tout à l'heure. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient point fréquentes. Une autre version dit les visions n'étaient pas interprétées. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Et Samuel répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé. Retourne vers ta couche. » Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, allait vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Je ne sais pas ce que cette phrase veut dire. C'est une des notes que j'ai dans mon petit carnet qui n'a jamais été perdue ni égarée. C'est un petit carnet fictif de questions que j'aimerais poser là-haut, savoir ce que cela voulait dire. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas une rencontre avec le Seigneur? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a jamais entendu le Seigneur parler dans sa vie? C'est peut-être notre cas ce matin. On entend parler de Jésus depuis longtemps, longtemps. Et quand est-ce qu'il nous a parlé dans notre vie de manière directe et personnelle? L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit. Il fallait du temps, hein? Il n'était pas vite à la comprenette. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel allait se coucher à sa place. L'Éternel vint, se présenta. Il appela comme chaque fois, « Samuel, Samuel. » Et cette fois-ci, Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » J'aimerais commencer en vous citant quelque chose que j'ai vu dans le journal du pays l'autre jour, qui m'a frappé, qui m'a parlé. Vous avez certainement remarqué qu'il y a des gens qui travaillent énormément sur la ligne de partage entre l'arrivée du rocher du Salève. Si vous ne savez pas ce que cela veut dire, vous allez demander à Thibault, parce qu'il a fait de la géologie, entre la ligne du Salève et la plaine du Rhône. Il y a des gens en pagaille qui sont en train de faire des forages. Intéressant. Pourquoi est-ce qu'ils font des forages là? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont la conviction qu'ils vont tomber sur des sources d'eau riches, eau chaude, pour pouvoir toucher cette eau chaude. Et puis nous n'aurons plus peut-être des factures de l'EDF et tout cela. J'espère que ce serait le résultat pour moi en tout cas, et pour vous autres. Mais il y a des ressources extraordinaires. Ils disent qu'ils sont sûrs de tomber sur les sources d'eau à 30 degrés. Pas mal. Pas mal pour prendre un bain à 30 degrés. Mais probablement à 50 degrés. Et il est vraisemblable à 150 degrés. Alors, je n'ai pas envie de 150 degrés pour mon bain. Ce serait un peu trop chaud. Mais vous imaginez la puissance qui est en réserve, là. La puissance qui est en réserve. En lisant ça, j'ai subitement pensé un verset qu'on a lu avec ma petite femme le matin même, et ce verset est dans Éphésiens 3 et 20, et qui nous dit quelque chose d'extraordinaire là. Il dit ceci, « La bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu qui sauve de la mort éternelle tous ceux qui l'acceptent avec foi. » Et par la suite, « Celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de tout ce que les prières peuvent demander, notre imagination ose espérer. » Donc, je suis en train de vous dire, mais les hommes sont en train de découvrir des sources géothermiques qui vont taper, j'espère, et qui vont nous aider à réduire nos factures, j'espère, et que ce serait cette énergie qui perd Dieu comme on désire trouver. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus puissante que cela, de beaucoup plus puissante. C'est l'action du Seigneur dans ce monde, c'est l'action du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit dans les vies quand on lit la parole. C'est pour cela que ces jours-ci, nous allons beaucoup penser à l'évangélisation, pas vrai, hein? On vise le 6 décembre, en tout cas. On a visé l'été avec le club des enfants. Mais des occasions de partager la parole, parce que nous croyons que cette parole est puissante et va toucher des vies, bouleverser des vies. Autrement, c'est plus la peine de prier. Moi, je prie pour toutes ces personnes dans notre immeuble et les personnes ailleurs dans le quartier qu'on a rencontrées, qui sont ouvertes à la parole du Seigneur. Et on va prier pour le 6 décembre, quand nous aurons l'occasion, vous aurez l'occasion de chanter. Moi, je ne vais pas chanter avec vous, parce que vous chanterez faux, hein. Mais vous allez avoir l'occasion de chanter, d'apporter le message de manière tangible pour que les gens saisissent une parole, comme les paroles que nous apprenons là, pour que ça bouleverse nos vies. Celui qui, vous notez ce verset d'Éphésiens 3 et 20, c'est pas un verset que je vous propose d'apprendre par cœur, parce que ça existe en plusieurs versions. Celui qui peut agir en vous par sa puissance et faire surabondamment, il est dit dans plusieurs passages, au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Bien-aimé, c'est ça le Dieu que nous avons, que c'est celui auquel on a chanté ce matin, c'est celui qu'on a loué ce matin, c'est ce Dieu-là. Donc il n'y a pas l'occasion d'être découragé, hein. Il n'y a pas l'occasion d'être découragé. J'ai été terriblement découragé en pensant que les impôts allaient arriver, pas vous? Et je prie, Seigneur, prends les impôts en main, parce que la dernière fois, ils m'ont sapé, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'était malhonnête, moi. Et quand c'est arrivé, oh, c'était un quart de ce qu'ils m'ont demandé la dernière fois. Je crois que je vais pouvoir les régler quand même. Oh, le Seigneur est là, il intervient, il répond à la prière, mais au-delà de tout ce que nous demandons, je vois notre sœur Sarah là, et nous prions pour le Liban. J'espère que vous continuez de prier pour ce Liban, pays dans lequel l'évangile était prêché largement dans ce pays. Et prions pour que les chrétiens soient gardés là, pour que Mourad soit gardé. Je viens de passer un article à Daniela qui est assez extraordinaire, un article qui nous parle de combien les gens en Afrique du Nord sont en train de se convertir en ce moment. Les derniers chiffres qu'on a de l'Algérie, moi j'ai dit 30 000. On me dit que j'ai tort. Il y a au moins 100 000 personnes en Algérie qui connaissent Jésus-Christ comme sauveur maintenant. Mais ça, c'est la suite de quoi? C'est la suite de quoi? C'est la suite de deux choses. Des hommes et des femmes qui ont été fidèles et qui n'ont peut-être jamais vu une conversion de toute leur vie en Algérie et qui sont auprès du Seigneur maintenant. Et puis, pour ceux qui ont prié par la suite. Je crois que c'est en 2010 ou 2011 que les chrétiens de l'Afrique du Nord avaient lancé un appel « Priez pour nous !» Qu'il y ait une vague de prière pour nous. Ou bien aimé qu'il y ait une vague de prière pour notre pays, pays de Gex, parce que le Seigneur demande cela, il va répondre au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors essayons de voir le passage que nous avons lu tout à l'heure concernant Élie et Samuel. Les yeux d'Élie commencent à s'affaiblir. Il y en a comme cela. Une des prochaines fois, vous allez me voir avec des lunettes quand même. Ça va m'arriver comme à presque tout le monde. Nos yeux faiblissent. Mais je crois que c'est un sens symbolique qui doit nous parler. Élie n'a pas été un homme fidèle dans son service. Il n'a pas été fidèle vis-à-vis de ses enfants. Nous avons un enfant qui est rebelle contre le Seigneur, mais pas rebelle contre ses parents. Il nous aime comme presque personne nous aime. Il est extraordinaire de ce côté-là. Et remercie le Seigneur. On aimerait qu'il y ait un pas de plus, c'est clair. Mais Élie n'avait pas vraiment enseigné la parole à ses enfants. Et vous avez plusieurs passages concernant ses enfants qui sont tragiques. Si vous lisez dans votre Bible de nouveau, regardez vos Bibles, le chapitre précédent. Ces enfants sont appelés des vauriens, des vauriens. Oh, je bénis le Seigneur que je n'ai pas des vauriens comme enfants. J'ai des enfants qui nous font plaisir. Mais Élie, sans doute, n'a pas été fidèle. D'autres choses qui sont encore plus drastiques à leur égard, il paraît qu'il mangeait à l'entrée de la tente d'assignation, là on se souvenait du Seigneur, et pire que cela, il couchait là avec des femmes incrédules. C'était par leurs femmes. Et Élie vivait dans tout cela. Je comprends bien qu'il ne voyait plus clair. Et s'il dit cela de lui. Il ne voyait pas les projets que Dieu avait pour son pays. Et j'aimerais poser la question de nouveau. Est-ce que nous avons un projet, une vision de ce que Dieu veut pour notre pays? Je n'ai pas encore obtenu mon passeport gécien, mais je l'attends un de ces jours. Mais pour ce pays de Gex, est-ce que nous prions pour ce pays? Est-ce que Dieu peut faire des miracles dans ce pays? Ou est-ce que nous n'y croyons plus? Nous n'avons plus la vision de cela. Et pour notre France qui prend une mauvaise direction, est-ce que nous pouvons prier pour cela? Si les amis en Algérie ont prié et demandé la prière, voyez le résultat. Pareil au Maroc, pas autant, mais presque pareil en Tunisie. La personne qui, je vois qui c'est maintenant, qui a écrit un article que j'ai prêté à notre sœur, a dit que dans le temps, il y avait une trentaine de chrétiens en Tunisie. Je me souviens de cette époque. Quand je demandais au serviteur de Dieu, il y a combien de chrétiens dans ce pays? Une trentaine. Et puis une des prochaines fois, j'ai redemandé, on m'a dit, mais je crois qu'il y a entre 300 et 500, on n'ose pas dire. Puis maintenant, on me dit, mais il y a probablement 2 à 3 000 chrétiens. C'est pour ça que notre tâche à nous, avec Hélène, n'est pas d'aller évangéliser en Tunisie, mais d'aller enseigner en Tunisie. Et je crois que c'est la priorité. Les gens du pays peuvent évangéliser bien mieux que nous. Mais notre tâche, c'est de partager la parole avec les plus jeunes, ceux qui sont moins expérimentés. Et je regarde les plus jeunes. Il y a quelques-uns qui sont plus jeunes que moi ici ce matin. Vous n'êtes pas nombreux, mais quelques-uns. Et je pense à vous et l'avenir et ce que le Seigneur réserve pour vous. Et certains pays ont proclamé que Dieu était leur Dieu. Vous vous souvenez du slogan des États-Unis qui se trouve dans toutes leurs pièces d'argent. En Dieu, nous faisons notre confiance. Ce n'est pas tout à fait cela maintenant, tristement. Et notre pays de France qui se disait un pays chrétien. La prochaine remarque me semble encourageante. Mais la lampe n'était pas encore éteinte. La lampe n'est pas éteinte en France. En lisant un rapport l'autre jour de l'Institut biblique de Nogent, le frère qui dirige l'Institut maintenant, Jacques Blocher, fils, son petit-fils, Jacques Blocher a écrit, mais dans le temps, en France, il y avait peut-être entre 100 et 200 chrétiens évangéliques, puis 400. Et maintenant, on dit qu'il y a 800 chrétiens évangéliques en France. Moi, je me souviens de toutes ces périodes. Dieu est en train de répondre. Et ce Dieu peut répondre au-delà de tout ce que nous croyons et pensons. C'est ce Dieu-là. Et la lampe du témoignage n'est pas éteinte. Moi, je remercie le Seigneur de ceux qui sont plus âgés que moi, comme Loulou, comme Freddy auprès du Seigneur, comme tout ça, ceux qui nous ont précédés pour que cette assemblée soit là aujourd'hui. Et par la suite, des hommes comme Jean-Paul qui ont été fidèles pendant les années. Merci Seigneur, parce que la lampe n'est pas éteinte. Il y a des choses qui doivent se passer. Dieu est fidèle. La lampe n'est pas encore éteinte, donc il y a de l'espoir. Alors j'aimerais dire là, tenez ferme devant nos autorités. Tenez ferme. On va nous demander d'accepter des choses que nous ne pouvons pas accepter bibliquement. Le clash va venir qu'on le veuille ou pas. Si ça vient, que nous soyons des gens humbles, discrets, mais ça va venir. J'ai dans ma voiture là une lettre au ministre de l'Éducation nationale pour lui dire combien je ne suis plus du tout d'accord avec ce qu'elle fait. Et ça me coûte un timbre quand même. Ça vous coûtera la même chose pour la même lettre si vous voulez l'envoyer. Prenons position. Nous avons une position en tant que chrétiens. C'est si important. Alors le Seigneur a parlé. Et notre frère Élie, 3 fois il n'a pas su comment répondre. Moi je trouve ça assez triste qu'un serviteur de Dieu ne sache pas comment répondre à un plus jeune. Qui n'ait pas reçu une révélation du Seigneur à son sujet. Quand j'étais à plein temps dans la ville d'Aix-en-Provence, Je ne pouvais jamais traverser la ville sans rencontrer des jeunes nouvellement convertis. Et qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ce matin, me disait. À un moment donné, j'ai appris qu'il y avait une réponse à donner. Et j'ai donné la réponse suivante. Et qu'est-ce qu'il t'a donné à toi, hein? Qu'est-ce qu'il t'a donné à toi? C'est important que les plus âgés dans l'assemblée, dans l'église, reçoivent une parole pour les plus jeunes, soit un encouragement pour les plus jeunes. Je vous exhorte dans la parole. Oui, assez de choses qui peuvent nous décourager. Vous pouvez me parler de toutes les choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord et qui vous découragent. J'aimerais mieux que vous les envoyiez en direct, en recommandé auprès de l'adversaire. C'est lui qui se spécialise dans tout cela. Mais parlons des choses qui nous encouragent. Parlons du Seigneur, de sa fidélité, de sa manière de répondre. On est dans un monde complètement désorienté. Prions pour nos enfants. Peut-être que nous devrions avoir une réunion de prière spéciale à l'Assemblée pour les enfants qui sont à l'école actuellement ou qui vont aller à l'école. Je pense que c'est un ministère que nous devrions exercer. Alors, le Seigneur a des choses à dire à ses disciples aujourd'hui même. Il a dû appeler Samuel 3 fois. Quelquefois, il doit nous appeler plusieurs fois. Je ne vais pas vous raconter comment le Seigneur m'a appelé. Je m'excuse, j'oublie ça. Je vous ai rappelé combien de fois le Seigneur a dû me parler quand je suis parti au Québec, un peu comme certains Jonas et d'autres qui sont allés dans la mauvaise direction. Et le Seigneur a dû me parler 3 fois. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et c'est ça qui m'a ramené dans mon pays de France, parce que c'est devenu le mien. Et combien de fois le Seigneur t'a parlé? Je n'ai pas demandé aux plus âgés, c'est-à-dire les vieux qui ont plus de 35 ans, vous voyez un peu le style. Je n'ai pas leur demandé de dire combien de fois le Seigneur vous a parlé, mais les plus jeunes, combien de fois le Seigneur t'a parlé? T'a parlé à toi? Il t'a dit ce qu'il attendait de toi. Et si les plus âgés, vous m'entendez, c'est pour moi et pour toi aussi. Combien de fois il nous a parlé? Nous a dit ce qu'il attendait de nous et nous n'avons pas répondu. Alors si Élie n'a pas su comment répondre, finalement, il a donné la raison. Il fallait qu'il écoute. La 3e fois, Élie a compris que c'était Dieu qui voulait parler. J'exhorte ceux qui exercent une responsabilité dans l'Assemblée, qu'ils soient membres du conseil ou pas, mais ceux qui exercent un ministère, sachant que quelquefois le Seigneur veut nous parler. Nous parler concernant l'Assemblée, nous dire des choses. Est-ce que nous sommes prêts à écouter, être conséquents pour cela? Et cette merveilleuse prière que Élie a prise à Samuel, Seigneur, parle, ton serviteur écoute, ton serviteur écoute. Mais il y en a bien qui ne prient pas cette prière, parce qu'une version moderne de la même prière, vous la connaissez peut-être, une autre traduction. Écoute, Seigneur, ton serviteur te parle. Vous avez entendu cette traduction-là? C'est souvent la mienne, hein? Souvent la mienne. Depuis que j'ai perdu toutes ces choses avec Hélène, j'ai dit, Seigneur, permets qu'on découvre au moins un sac avec quelque chose dedans dans la rue. Le Seigneur n'a pas répondu. Est-ce que tu vas m'aimer quand même? J'ai dit, oui, Seigneur, avec ton secours, je t'aime. Quelle est la réponse que nous donnons? Seigneur, parle. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est avec un Dieu qui parle. Il t'a parlé, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Est-ce que nous sommes prêts à être conséquents et à répondre à ce qu'il nous a dit? Ou est-ce que nous disons, Seigneur, écoute-moi, j'ai des trucs que je voudrais te dire à toi. Le Seigneur n'est pas contre le fait qu'on veut lui dire tout ce qui est sur nos cœurs, mais il veut qu'on sache écouter. Dans les conditions terribles de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est tellement important qu'on soit vraiment à l'écoute du Seigneur. Un petit passage que j'aimerais vous lire, je crois que c'est sur les notes là-haut, je n'ai pas regardé, c'est dans 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. 10 et les versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire si nous sommes ici dans la chair humaine, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Des forteresses, il y en a un paquet dans ce monde, de choses impures, de pornographie, de toutes sortes de choses, d'Halloween et tout ce que cela veut dire. N'ayez rien à faire avec ces choses-là, bien-aimés. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Je ne dis pas pour vous, mais moi j'ai besoin de prier ça constamment. Constamment. Oh Seigneur, amène mes pensées en conformité avec ta parole, avec ce que tu veux de moi. Seigneur, aide-moi à ne pas être révolté. Amène-moi à te prier cela. Le vrai disciple aime la parole. Il aime la parole. Et il veut la dégirer. Et voici, j'arrive à un des versets que j'aimerais vous soumettre pour apprendre par cœur. Je crois que Philippe va s'arranger pour que ça soit sur le site pendant la semaine, s'il te plaît, ces deux versets. Vous qui êtes nés de nouveau, recherchez donc avidement le lait pur et spirituel, la parole de Dieu. Car en la buvant, vous croîtrez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ces deux versets qui sont tellement, tellement importants. 1 Pierre 2, 2 et 3. Notons-les et apprenons-les par cœur, c'est tellement important. Et le psaume 34, 9, c'est une citation du même verset. Le vrai disciple, celui qui est vraiment désireux de suivre le Seigneur de près, on en a parlé tout à l'heure, hein? On a chanté, il est quoi Jésus? Vous ne vous souvenez pas qu'on a chanté? Il est quoi? Il est roi. Tout le monde a oublié. Il est roi. Et on est là pour le servir. La marche du disciple implique la soumission et l'obéissance. Donc le vrai disciple accepte la correction de la parole de Dieu. Toute écriture est utile pour enseigner la vérité, pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs. Ainsi l'homme qui appartient à Dieu se trouve parfaitement équipé. 2 Timothée 3,16. Je vais vous donner un petit tuyau, c'est gratuit ce que je vous donne. Mais notez-le bien. Cherchez toutes les références 2, 3, 16 que vous trouvez dans le Nouveau Testament. Vous en trouverez 9 qui concernent notre vie chrétienne. 9. Je vous laisse faire ça quand vous aurez mangé votre repas à midi, vous allez les chercher. Vous connaissez Jean 3, 16, quand même vous connaissez celui-là. Hein? Et ici 2 Timothée 3, 16. Si important, toute écriture, toute la Bible est utile pour enseigner la vérité, pour nous convaincre de péché, pour refuter les erreurs. Ainsi l'homme qui appartient à Dieu se trouve parfaitement équipé, tellement, tellement important. Et le vrai disciple est conscient des erreurs. Il ne fonce pas tête baissée, bien aimé, notons-le. On ne fonce pas tête baissée. Il y a des erreurs, des faux docteurs dans ce monde et il faut corriger selon la parole de Dieu. Et là, nous avons la référence de Jean 16 et 13. C'est l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, de ce qu'il a entendu parler du Père et du Fils. Le Saint-Esprit vous guidera dans toute la vérité, Jean 16, 13. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il a entendu du Père et du Fils. Il est l'Esprit de vérité. Et bien aimé, ne prenons pas les demi-vérités. Il y a des demi-vérités qui se promènent à droite et à gauche, qui ont souvent le mot évangile dedans. Vous avez par exemple l'évangile de la prospérité. Notre Seigneur doit connaître ça parce qu'en Amérique du Sud, c'est très répandu, c'est répandu en Afrique aussi. Hein. L'évangile de la prospérité. Je suis convaincu dans l'évangile, je suis convaincu de la bonté du Seigneur, mais le Seigneur n'est pas une bourse d'action et tout cela. Attention, c'est une fausse doctrine, cette doctrine de la prospérité. N'ayez pas à vous référer à cela. Mais je vous raconte une toute petite histoire pour vous détendre avant de terminer. Le beefsteak ne va pas griller, ne vous en faites pas. C'est encore pour 5 minutes, si ça ne vous ennuie pas. Hein. Il y a un archevêque un jour qui rencontrait des évangéliques et disait à ces évangéliques, « Regardez notre belle église, notre belle cathédrale, elle est sensationnelle. L'église n'a plus besoin de dire de l'argent et de l'or, je n'en ai point. Parce qu'on est riche maintenant. » Et l'évangélique qui répond tout doucement, l'église n'a plus besoin de dire de l'argent et de l'or, j'en ai point. Mais elle ne peut plus dire, mais ce que je te dis, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Alors là, c'est tout différent. C'est tout différent. Jésus travaille à travers les gens qui sont pauvres dans cette vie, qui n'ont pas beaucoup de moyens, peut-être matériels. Il travaille parmi les autres qui sont plus riches en même temps. Je ne suis pas en train de parler contre les richesses. Mais sache que c'est compté sur la parole du Seigneur. Donc, le vrai disciple est prêt à être repris par ses frères et sœurs. Et je crois que ça, c'est terriblement important. Certains savent que, pour moi, ce n'est pas un truc qui me passe par la tête. Mais j'ai terriblement à cœur les cellules dans une église. Pas juste des groupes de prière, mais on part beaucoup plus loin. Des cellules. Pour qu'ensemble, on puisse écouter le message du Seigneur de nouveau. Peut-être repenser le message du dimanche. Peut-être aller à l'étude biblique. Qu'est-ce que je vous encourage là? Il devrait y avoir au moins une personne de chaque famille qui est présente à l'étude biblique. Et sinon, c'est à cause d'une maladie ou parce qu'on est absent. Mais c'est tellement important, la parole de Dieu. Et que dans les groupes de prière, que nous partagions particulièrement ce qu'on a reçu pour que ça reste dans nos cœurs, ça ne soit pas quelque chose de passager, mais que ça marque nos vies, c'est tellement important. Un verset que nous n'avons pas lu, mais qui nous encourage quand même, il est dit que le Seigneur continuait de parler à Samuel. Quand le Seigneur commence à nous parler dans la parole, il continue de nous parler. Je suis peut-être converti depuis plus longtemps que la plupart d'entre vous. Je n'ai pas demandé depuis combien de temps vous connaissez le Seigneur. Mais j'aimerais vous dire que je suis constamment en train d'apprendre quelque chose de neuf. Et le Seigneur a continué de parler à Samuel, à Silo. C'était un endroit où il donnait rendez-vous à ceux qui le connaissaient. Et c'est important pour nous d'avoir des silos, S-I-L-O, des endroits où on rencontre le Seigneur. Ce matin, nous avions eu 1 heure de plus, hein? Pas vrai? 1 heure de plus. Moi, j'ai remercié le Seigneur pour 7 heures de plus, parce que j'ai pu passer davantage de temps pour lire la parole et revoir ce que je devais partager avec vous et demander au Seigneur ce qu'il voulait me dire. C'est tellement important. Notre témoignage en public reflète notre vie chrétienne dans le privé. Vous m'avez suivi? Notre témoignage devant les autres, devant nos voisins, devant notre famille, dépend du temps que nous passons dans l'intimité avec le Seigneur. C'est tellement, tellement important. Et le Seigneur continuait de se révéler à Samuel. Ce n'était pas sa dernière rencontre. Il a continué de rencontrer le Seigneur. Et quelques versets que j'aimerais vous suggérer. Avec amour, j'aimerais vraiment vous les suggérer, que vous les notiez, que vous les appreniez par cœur. Si ça apparaît sur le site, nous n'avons pas d'excuses. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Psaume 46 et le verset 11. Tenez-vous tranquille, Je vous ai donné la traduction d'Arbila qui est plus prenante. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Et puis en Samuel 3 et verset 8 que nous avons lu, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous avons des décisions pratiques à prendre avec Hélène, pas de grosses affaires, mais quelques petites décisions à prendre. Et je dis, Seigneur, mais parle, moi je ne veux pas prendre la décision seule. Je veux la prendre avec ma femme. Je veux la prendre dans la prière. Et puis ce dernier verset, 1 Pierre 2, 2 et 3. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole de Dieu, afin que vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté, ou toutefois si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ça, c'est un verset formidable. Soulignez-le dans votre Bible. Notez-le et apprenez-le. Je vous exhorte de tout mon cœur de faire cela. Est-ce qu'on peut terminer? Je crois que le temps s'est écoulé. L'horloge ne marche plus maintenant qu'on a changé l'heure. Et ton pain, ne nous en faites pas. On va terminer par un instant de prière silencieuse. Puis je demande un coup de main à Nicolas. Quand je descends, j'ai toujours besoin d'un frère pour m'aider à descendre. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons dire, nous, moi, toi, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Ce qui est qu'ils vont à dire, mais ton serviteur est prêt à t'obéir. Parle Seigneur, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Seigneur, je te demande que les oiseaux du ciel ne viennent pas enlever cette semence ce matin, mais que ces enseignements puissent être gravés dans mon cœur à moi et gravés dans nos cœurs, et que notre témoignage reflète le fait que nous passons davantage de temps dans l'intimité avec le Seigneur. Parle Seigneur, parle Seigneur, tes serviteurs écoutent. Amen.
Merci à chacun pour sa participation à notre culte de ce matin. J'aimerais partager avec vous le programme de la semaine. Demain soir, on a la chorale qui se retrouve ici au CEP. Mardi, réunion de prière dans ces locaux, donc au sous-sol. Samedi, groupe de jeunes. Dimanche prochain, on a le thé café à 9h30. Et puis le culte à 10h30. Et pour le culte, donc le thème du message, ça va être la suite de la conquête du pays de Canaan. Et je vous invite à lire les chapitres 3 à 5 du livre de Josué, qui sont la traversée du Jourdain. Alors on ne va pas lire ces trois chapitres pendant le culte. Donc moi je vous invite à les lire déjà à la maison, ça sera une bonne préparation pour le culte. Et puis cette traversée du Jourdain, c'est un petit peu une préfiguration ou un symbole du baptême. Alors ça tombe bien parce que on aura le parcours baptême qui sera donc pendant trois jeudis, les 6, 13 et 20 novembre. Alors si vous voulez y participer, ce n'est pas un engagement pour le baptême, c'est plutôt une préparation. Si vous voulez y participer, faites-nous le savoir, contactez-nous, afin qu'on sache un petit peu le nombre de participants. Pour le programme pour la suite, le week-end d'après, le dimanche, c'est le dimanche de l'église persécutée, organisé par Portes Ouvertes. Alors on vous propose un séminaire déjà le samedi. On commence tôt dans l'après-midi, on commence à 13h30. Un séminaire sur l'islam, qui sera donné par Christian Bibollet. Alors Christian Bibollet, il est le président du groupe de travail sur l'islam au niveau du réseau évangélique Genevois. Et puis avec Anne-Marie, on le connaît bien parce qu'il y a très longtemps, Christian était le pasteur de l'église de Belfort à laquelle allait Anne-Marie. Donc ça remonte déjà à quelques dizaines d'années. Donc il y aura, ce séminaire va se passer en trois temps. D'abord, une brève introduction historique de l'islam. Ensuite, les principales objections de l'islam à la foi chrétienne. Et enfin, un sujet qui est peut-être certainement nouveau pour beaucoup, la crise de l'islam et les appels à la réforme qui y sont liés. Donc, qui sont plus d'actualité sur ce qu'est l'islam exactement aujourd'hui. Ensuite, donc, le dimanche 9, c'est le culte de l'église persécutée. Et puis, le groupe de jeunes a à cœur de nous offrir un petit déjeuner. Donc, le dimanche 9, dans 15 jours. Hein. Donc, sachez-le à l'avance, le groupe de jeunes va nous préparer un petit déjeuner. On est tous invités. Ce sont en général des moments très sympas. Ça fait quelque temps qu'on n'a pas eu ça. Souvent, le groupe d'ados avait organisé ça, ou bien peut-être le groupe de jeunes aussi. Et puis, ce que chacun voudra donner pour ce petit déjeuner sera mis de côté pour les églises persécutées, justement. Voilà, très bien, merci. Ouais, c'est important de s'inscrire, parce que c'est pas tout à fait la même chose s'il faut préparer pour 10 ou bien pour 40. Ça change un petit peu quand même. Ou bien pour 100 peut-être, pourquoi pas. Un petit peu plus tard, donc à fin novembre, on a la récolte pour la banque alimentaire. Je crois que l'annonce a déjà été faite, c'est donc les vendredis 28 et samedi 29 novembre. Et puis vous trouvez sur le site de l'église les liens pour s'inscrire pour cette récolte. Et puis, si quelqu'un n'a pas d'accès Internet, faites-nous le savoir, et puis on peut vous inscrire. Pensons toujours à Audrey, qui est bien rentrée il y a déjà plus d'une semaine. C'est vrai qu'on veut penser à elle, c'est pas toujours évident au niveau de la mobilité, ça change quand même des choses. Il faut maintenant la patience. Pensons aussi à Guylaine, qui n'est pas très bien dans sa santé. C'est important de la remettre dans nos prières, pourquoi pas une petite visite. Pensons aussi les uns les autres quand on a des soucis de santé. Sinon, je vous invite à vous lever, je vous lis encore. Oui. Peut-être juste avant, juste pour dire, on a reçu les calendriers. Les calendriers 2015 sont arrivés, et puis à partir de dimanche prochain, ils seront à disposition et seront en vente au fond de la salle. Sinon, je vous lis encore un verset dans 2 Pierre 2. Et vous-même, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, passez une bonne semaine.